Café, radio et éducation populaire, une chronique pour mieux connaître les organismes citoyens des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, une présentation du RÉPAC 0312.
Bonjour, William Demers.
Bonjour.
Tu es à l'Association de défense des droits sociaux de la Rive-Sud.
Oui, exactement, l'ADDS.
Oui, qu'est-ce que c'est?
Sinon, dans le fond, c'est un organisme de défense des droits sociaux des personnes à cité sociale. Donc, nous, on fait principalement, c'est ça, de la défense collective des droits. C'est assez large, mais entre autres, on va donner des formations dans des que ce soit dans d'autres organismes, dans des lieux d'enseignement comme des cégeps ou l'université, pour que ça soit soit pour essayer de déboulonner un peu des mythes en lien avec l'aide sociale, que ça soit aussi pour informer des intervenantes intervenants qui travaillent des fois avec ces gens-là dans certains milieux puis qui sont pas nécessairement outillés pour accompagner ces gens-là, parce que c'est une loi qui est assez floue. Il y a pas beaucoup de d'explication qui est donnée souvent par les agents agentes aux personnes. Fait que souvent, ils se retrouvent un peu avec de l'incompréhension, puis tu sais, des textes de loi. Je pense que tout le monde sait comment ça peut être lourd. Fait que c'est un peu pour vulgariser tout ça puis accompagner ces gens-là. Puis aussi, on fait beaucoup là de travail d'éducation populaire avec nos membres. Donc, tout notre travail se fait en comité. Tu sais, c'est rarement de l'individuel qu'on fait. Vraiment, les gens sont impliqués dans la vie associative de l'organisme, puis participent à notre CA, participent au comité de travail qu'on va mettre en place dans l'année là, pour décider c'est quoi les actions qu'on va mettre en place là, pour défendre les droits des personnes à cité sociale et en situation de pauvreté en général. Donc, en gros, ça ressemble à ça.
Le territoire, c'est la ville de Lévis, ainsi que des municipalités régionales de comté comme Bellechasse, Montmagny et Lillet.
Oui, exactement. Montmagny-Lillet, c'est tout récent, là. C'est dans la dernière année, mais c'est les trois MRC, oui, qu'on couvre.
Ça vous fait un bon territoire pour que les gens se regroupent aussi. Les gens cités sociaux, j'imagine que c'est plus difficile de se déplacer aussi.
Ouais, c'est ça. Ben la majorité des gens qui sont impliqués, tu sais, plus fréquemment, c'est plus des gens de Lévis, là. On va pour être honnête, il y a une des personnes là qui est souvent là dans plusieurs de nos actions, qui est sur notre CA, que lui vient de Bellechasse. Mais sinon là, tu sais, en majorité, c'est vrai que c'est plus difficile des fois de mobiliser les gens des régions plus éloignées. Ouais. Puis justement sans entrer dans trop de détails, mais en ce moment, nous, on est en planification stratégique pour l'année, puis c'est des choses auxquelles on réfléchit, de OK, comment qu'on fait pour aller chercher ces gens-là, qui sachent que on est là pour eux dans leur territoire, puis que nous-mêmes, on va aller se déplacer. Donc, c'est vraiment dans nos objectifs là, des prochains mois, prochaines années, à vraiment comme consolider un peu notre lien avec les gens de ces régions-là, parce que c'est un bon point que t'amènes, effectivement. C'est pas toujours évident de mobiliser les gens à la base. Puis en plus, quand tu rajoutes, tu rajoutes la distance à ça, c'est pas toujours évident.
Ça, parce qu'il faut avoir les moyens de se déplacer.
Exact. La mobilité, c'est vraiment un enjeu crucial chez les personnes en situation de pauvreté. D'autant plus dans une région comme Lévis, dans une région comme Bellechasse, Montmagny-Lillet, qui sont pas nécessairement desservies par le transport en commun très bien. Donc, oui, effectivement. C'est un frein assez majeur là, qu'on peut dire.
Est-ce que tu peux nous expliquer l'approche que vous utilisez à la DDS?
Oui, dans le fond, il y en a plusieurs là, tu sais, comme on a un, tu sais, il y a une approche féministe, il y a une approche, tu sais, d'éducation populaire, mais celle que j'ai envie de vous parler, puis qu'on essaie vraiment de mettre l'emphase dessus, justement dans le cadre de la planification stratégique, c'est l'approche de conscientisation, pardon. Donc c'est une approche qui est assez qui des fois porte à confusion, hein, parce que quand on entend le terme conscientisation, on va penser à prendre conscience de, mais c'est plus large que ça. Ben, pour débuter, je peux vous lire d'ailleurs une définition qui est tirée en fait du collectif de québécois de conscientisation qui n'est plus aujourd'hui, mais qui a opéré là, pendant plusieurs années. Donc, la définition va comme suit. Processus d'apprentissage et d'inter-influence entre des groupes de personnes de la classe populaire immergées dans des situations d'exploitation, de domination et d'aliénation et des intervenantes et intervenants intérieurs ou extérieurs à la classe populaire interpellés par ces situations et visant à les changer dans une interaction dialectique avec un processus plus global de transformation politique de la société. Fait que...
ouais, concrètement.
Ouais, c'est ça. On va essayer de la décortiquer un peu, en fait. Là, c'est comme un peu une mise en bouche, je peux dire. Puis aussi, juste dire là, en partant que... le concept de conscientisation est donné normalement en formation, est présenté sur une formation de 2 jours. Donc là, c'est vraiment quelque chose de plus synthétisé. Ça sera pas la description la plus exhaustive, mais ça donne une petite idée. Puis si jamais ça peut intéresser les gens à se pencher un peu plus là-dessus. Donc d'abord, on parle d'inter-influence dans la définition que je vous ai lue. Ce que ça signifie ici, c'est vraiment que les personnes, on va les appeler les personnes aidées, là, entre guillemets, juste pour le besoin de la cause, là. C'est que les personnes aidées sont actifs tout au long du processus. T'sais, c'est pas juste une personne qui reçoit une formation ou qui se fait expliquer quelque chose par une personne dite experte, c'est vraiment c'est ça, un dialogue entre les deux personnes. Une image qui est souvent utilisée, qui est assez frappante là, pour imager ça, c'est ce ne sont pas des cruches vides qu'on remplit. Donc, c'est pas nous qui leur garoche plein d'informations. C'est vraiment un dialogue entre les deux. Puis, ces gens-là avec qui on va travailler, nous, par exemple, dans notre milieu, ben ils arrivent avec un bagage de vie, ils arrivent avec déjà des connaissances, des aptitudes qu'ils ont développées dans leur histoire de vie. Par exemple, des personnes en aide sociale, ben qu'est-ce qui les a menés là? C'est quoi leur chemin, les difficultés qu'ils ont vécues pour se ramasser là? C'est quoi aussi les réalités qu'ils vivent en étant à l'aide sociale, que ça soit les préjugés tant de la société, mais aussi comme que le système est violent envers ces personnes-là, parce qu'il est... En tout cas, ça serait long à expliquer, mais il y a beaucoup de choses qui sont très dures sur les personnes. Donc, c'est quoi que ces personnes-là, finalement, ont retiré de cette expérience-là, puis qui peuvent amener dans une optique de conscientisation. C'est ça. Nous, par exemple, ben on amène aussi quelque chose en tant qu'intervenant, intervenante, des aptitudes, des connaissances qu'on a développées soit dans nos études ou dans notre pratique sur le terrain. Puis ça vient un peu compléter ce que les personnes connaissent, ce que les personnes ont vécu. Puis c'est vraiment le but de la conscientisation, c'est d'avoir vraiment un échange puis une complémentarité dans les expériences puis les connaissances. Ensuite, dans la définition, on lit aussi que c'est un processus plus global de transformation politique de la société. Comme je disais, quand on entend conscientisation, on va penser à prendre conscience de. Mais c'est plus complexe que ça parce que, mettons, si on dit prendre conscience de, c'est seulement de constater une chose qui va mal ou qui va bien, là, peu importe, mais constater un fait, mais sans nécessairement avoir d'analyse de pourquoi cette situation-là est arrivée, c'est quoi les retombées aussi qu'une situation peut avoir. Donc la conscientisation, elle, va vraiment apporter une réflexion, apporter un regard critique sur une situation donnée. Puis c'est ça, tu sais, de pas seulement réaliser qu'une chose survient, par exemple, là, que ça soit par exemple une situation de pauvreté, mais de vraiment comprendre qu'est-ce que cette situation-là va avoir comme retombée sur la personne qui la vit, puis sur la société dans son ensemble, puis aussi comment que la personne en est venue là. Il y a aussi un lien toujours dans la conscientisation entre la réflexion et l'action. Donc, il y a tout le temps, un ne va pas sans l'autre dans la conscientisation, en fait. Par exemple, l'action, elle, va un peu dépendre de la réflexion, puisque l'action sera pas elle va pas être faite sur un coup de tête. Ça sera pas juste, on décide que go, on fait une action, on va faire une occupation, par exemple, ou à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale. Mais on va vraiment plutôt, il va avoir un parcours en amont qui est fait pour, OK, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette action-là, pourquoi qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on vise aussi à changer,
ouais,
à passer
là.
Comme message, c'est ça. T'sais, fait qu'il y a vraiment un travail en amont qui est fait, et pas seulement là se dire, OK, on va dans la rue puis on fait passer notre message, parce que ça manquerait de substance, si je peux dire. Puis de l'autre côté aussi, ben l'action permet à la réflexion de se concrétiser, de pas seulement rester dans la théorie, puis la fameuse rhétorique des pelleteux de nuages qu'on entend des fois de la part de certaines personnes de d'autres idéologies. Mais c'est ça, donc on reste pas là-dedans, on est vraiment dans, OK, là on a réfléchi, on a analysé une situation problème, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour tenter de, si c'est pas la régler, ben d'au moins la mettre en évidence, puis dire au monde, regardez, il y a ça qui marche pas, il faut faire de quoi, il faut se mobiliser sociétalement pour que les décideurs, décideuses fassent des changements. Donc c'est un peu ça là, le principe, c'est que l'action, puis encore une fois, l'action et la réflexion vont tout le temps être complémentaires, un peu comme je parlais tantôt pour les personnes. Puis aussi, c'est que il y a jamais d'éléments qui vont de facto, qui sont de nature. Tu sais, par exemple, la pauvreté ou des choses comme l'environnement, puis ces choses-là, c'est que c'est des décisions politiques qui ont amené à des situations de pauvreté, par exemple, des situations de racisme ou peu importe. Donc c'est là qu'on peut se dire, ben justement, par l'action, par la réflexion, on peut amener des changements, puis des changements de vision politique, étant donné qu'à la base c'est des actions et des réflexions qui ont fait en sorte que une situation problème s'est développée dans le temps. Donc pour conclure, je vous dirais juste, par exemple, quand vous allez voir une manifestation ou quoi que ce soit, ben dites-vous que il y a une réflexion en arrière de ça. Il y a, puis je dis vous, mais tu sais, je parle vous général.
Vous, auditrice, auditeur, ça, là, en général. Ouais.
C'est ça, il y a tout le temps une réflexion derrière. Puis aussi les personnes que vous allez côtoyer, peu importe c'est quoi leur bagage, leur travail actuel, mettons, ou leur occupation actuelle, ben ces gens-là ont des connaissances, ont un bagage qui est important, puis qui va toujours rester riche, vu que c'est ça, on va tous chercher nos expériences puis nos aptitudes d'endroits différents, finalement.
Absolument. Merci beaucoup, William Demers, de nous avoir parlé ce matin. Je rappelle que tu es à l'Association de défense des droits sociaux, la DDS, de la Rive-Sud. Et on peut consulter votre site web, évidemment, à DDS Rive-Sud, pour avoir plus d'informations.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.